la lecture, j'ai pensé, c'est un texte qui est un petit peu ingrat, je trouve. Je l'ai lu plusieurs fois avant de le travailler et je me suis dit, oh là là, c'est pas évident pour que vous puissiez l'intégrer, surtout pour ceux qui le découvrent peut-être pour la première fois ou qui l'ont complètement oublié. Donc j'ai pensé que ce serait mieux qu'il soit joué par trois jeunes qui ont les compétences pour le faire vite, parce que je les ai prévenus seulement au milieu de la semaine. La lecture sera faite. Bien sûr, ils n'ont pas pu l'apprendre par cœur en si peu de temps, mais je pense que ce sera plus vivant si c'est joué par trois personnes différentes. Donc, je vais vous présenter les personnages. Donc, David se lève. Voilà, Jonathan et Saül, qui fera aussi le narrateur. Je pense que le texte aura beaucoup plus de vie. Vous comprendrez pourquoi, parce que c'est quand même un petit peu ingrat. Voilà.
Jouer, c'est un grand mot, je précise que Michel met un peu la pression. Voilà, on va le lire avec le ton. Donc 1 Samuel 20. David s'enfuit de la communauté des prophètes à Rama et il alla trouver Jonathan pour lui demander:
mais qu'ai-je donc fait à ton père? De quoi suis-je coupable à son égard? Il veut m'assassiner. Pourquoi?
Comment? Mais non, David, que vas-tu imaginer là? Il n'est pas question que tu meurs. Je le saurai, car mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande chose. Pourquoi me cacherait-il ce projet-là? T'inquiète, il n'en est rien.
Si, je te jure. C'est juste qu'il sait très bien que nous sommes amis. Il doit penser. Il ne faut pas que Jonathan sache. Il serait trop triste. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es en vie, je ne suis qu'à deux doigts de la mort.
David, que puis-je faire pour toi? Je ferai ce que tu me diras.
Écoute, demain c'est la fête de la nouvelle lune. Je devrais normalement dîner à la table royale. Permets-moi de m'absenter. Je me cacherai alors dans les champs jusqu'après demain soir. Si ton père s'inquiète à mon sujet, tu lui diras: père, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem, sa ville natale, pour y participer au sacrifice annuel de toute sa famille. S'il répond, c'est bien, alors moi, ton fidèle ami, n'ai rien à craindre. Mais s'il se met en colère, tu sauras qu'il a résolu de me tuer. Jonathan, puisque devant le Seigneur, tu t'es lié à moi, ton serviteur, par un pacte d'amitié, agis envers moi avec bienveillance. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas la peine de m'amener à ton père. Mets-moi toi-même à mort.
Jamais de la vie! Si je constate que mon père a véritablement décidé de te supprimer, je te jure, David, que je t'en informerai.
Comment me préviendras-tu?
Viens, sortons dans la campagne.
Ils sortirent tous les deux dans la campagne.
Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te promets que demain ou après-demain à la même heure, j'essaierai de savoir quelles sont les intentions de mon père à ton égard. Si elles te sont favorables, pas de problème, je te le ferai savoir. Mais si le roi, mon père, veut effectivement te nuire, ce sera autrement plus compliqué. Néanmoins, David, que l'Éternel me punisse très sévèrement si je ne t'en informe pas. Puis, je te ferai partir discrètement et tu seras en sécurité. Puisse alors l'Éternel être avec toi comme il a été avec mon père. Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance à laquelle tu t'es engagé devant l'Éternel. Et si je viens à mourir, je te demande d'agir avec bienveillance et compassion envers les membres de ma famille, même lorsque le Seigneur aura fait disparaître tous tes ennemis sans exception.
Ainsi Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant:
que l'Éternel fasse payer les ennemis de David.
Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne.
Demain, c'est la fête de la nouvelle lune. On remarquera ton absence à table, c'est sûr. Donc après-demain, tu redescendras vite te cacher là où tu étais le jour où tout cela a commencé, près de la pierre des ailes. Je viendrai et je tirerai trois flèches dans cette direction, sur une cible que j'aurai choisie. Puis j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie « Les flèches sont derrière toi, reviens les ramasser », alors tu peux revenir dans la ville, car cela signifiera que tout va bien pour toi, et devant le Seigneur, si je te le dis, tu n'auras rien à craindre. Mais si je crie au jeune homme « Va plus loin, les flèches sont plus loin que toi », Alors pars, car l'Éternel te fait partir. Il restera jamais le garant pour moi et toi de notre engagement l'un envers l'autre. »
David alla donc se cacher dans la campagne. Le soir de la célébration de la nouvelle lune, le roi se mit à table pour le repas. Il s'assit, comme d'habitude, sur le siège adossé au mur qui lui était réservé. Jonathan se mit en face et Abner à côté de lui. La place de David resta vide. Saül ne fit aucune remarque ce jour-là. Il pensait « Certainement, David n'est pas pur. » Mais le second jour de la nouvelle lune, comme la place de David restait encore inoccupée, Saül se tourna vers Jonathan, son fils. « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui ?»«
David m'a demandé avec insistance la permission d'aller à Bethléem. Il m'a dit « Laisse-moi partir, je te prie, car nous devons célébrer un sacrifice de famille et mon père m'a ordonné d'y assister. Accorde-moi la faveur de pouvoir m'absenter pour voir mes frères. » Je lui ai accordé la permission. C'est pour cela qu'il n'est pas venu.
Alors Saül se mit en colère contre Jonathan. Fils de chienne ! Petit rebelle insolent ! Crois-tu que je ne sais pas que tu as pris la défense de ce David ? Tu as la bassesse de ta misérable mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas être roi. C'est pourquoi je te l'ordonne. Fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort.
Mais enfin, mais pourquoi devrait-il mourir ? Qu'a-t-il fait ?
Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait fermement décidé de faire mourir David. Il se leva de table dans une grande colère et ne mangea rien ce jour-là, car il était trop affligé à cause de la manière injurieuse dont son père avait traité David. Le lendemain matin, Jonathan se rendit dans la campagne, à l'endroit convenu avec David. Un jeune serviteur l'accompagnait. Il lui dit « « Cours ramasser les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut en avant et Jonathan tira une flèche au-delà du garçon. Quand le serviteur s'approcha de l'endroit où la flèche était plantée, Jonathan lui cria « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ? Vite, dépêche-toi ! Ne reste pas là !» Le serviteur de Jonathan ramassa la flèche et revint vers son maître, sans se douter de rien. Seuls Jonathan et David comprenaient la chose. Jonathan remit son arc et ses flèches à son serviteur et lui dit « Va les rapporter à la ville. » Après son départ, David sortit de sa cachette du côté sud et se prosterna 3 fois devant Jonathan, le visage contre terre. Puis, ils se saluèrent longuement en pleurant. David, encore plus que Jonathan.
« Va en paix, David, puisque notre amitié est établie par cet engagement que nous avons pris l'un envers l'autre par serment devant l'Éternel. Que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. »
Merci beaucoup pour ce travail un petit peu de dernière minute, mais qui était vraiment très très bien fait. Je pense que c'est un petit peu plus facile pour nous maintenant de nous représenter la scène, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'éléments. J'ai trouvé que c'était très très riche et c'était un peu difficile de s'y retrouver, mais grâce à vous c'est bien. Je pense qu'on a bien vu donc le texte. Si vous voulez le retrouver, le relire chez vous, c'est 1 Samuel 20. Voilà. Ils ont un tout petit peu modernisé le texte, c'est ce que je leur ai demandé pour qu'il soit plus abordable, parce que dans les versions classiques, j'ai ramé un petit peu sur le texte, donc je pense que c'était plus simple de le moderniser un peu. Quand on écoute ça, et j'y pensais tout à l'heure, en pensant à David, Jésus, fils de David, David, l'homme selon le cœur de Dieu... Ça pose question, hein. Surtout la semaine prochaine, vous allez voir toutes les bêtises qu'il va faire, David. Les souffrances, l'angoisse, enfin, il a tout, quoi, le pauvre. Il a bien démarré, il a eu une vie de berger super. Il a eu la victoire sur Goliath, et puis voilà que maintenant, il n'a que des embêtements. Grave. Sa vie est tout le temps en danger. Et elle va l'être longtemps. Sa vie en danger. Et je me suis dit, mais comment est-ce que cet homme a pu composer les psaumes qu'il a composés ? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on n'a que des embêtements, quand on risque des choses au niveau de notre santé ou de santé de nos enfants, etc., est-ce qu'on a envie de composer des psaumes ? Et c'est là que je comprends pourquoi on dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ça, hein, même si la moitié du psaume c'est « Seigneur, j'en peux plus, écrase mes ennemis, etc. » mais il a quand même composé des psaumes extraordinaires avec ça, ce que vous avez entendu tout à l'heure, au fond de sa tête et au fond de son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu, capable de louer Dieu au sein de problèmes aussi grands. Moi, je suis un peu époustouflée. Il n'était pas parfait, vous allez voir la semaine prochaine, vraiment pas raisonnable. Et malgré ça, capable de louer Dieu dans les difficultés les plus grandes. Et en plus, capable de prophétiser aussi. Vous savez que si on réunissait toutes les paroles prophétiques des psaumes, on aurait le troisième plus grand livre prophétique de la Bible, après Jérémie et Ésaïe. Ce serait David. Si on réunissait toutes les paroles prophétiques qui sont dans les psaumes. Comment est-ce qu'il pouvait être tellement rempli de l'Esprit de Dieu au milieu de cette souffrance? Soyons honnêtes, est-ce qu'on a envie d'aller à une soirée de louange si on a eu des embêtements toute la semaine? Voilà. Mais voilà, je réfléchissais un peu là-dessus. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je comprends juste un petit peu mieux que ce soit un homme selon le cœur de Dieu, malgré toutes ses bêtises. Il a cette proximité avec Dieu, cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Je sais pas comment il fait, alors que sa vie est sans arrêt en danger. C'est matière à réflexion. On va, je pense, l'année prochaine aussi, continuer un peu sur David. Je crois que c'est 21 fois qu'il a voulu tuer David, Saül, en tout. Je vous le redirai, il me semble que c'était 21 fois. Là, on en était à 6, je crois, et vous avez vu que Jonathan n'était pas encore tout à fait convaincu, pauvre Jonathan. Bon, David reprend la fuite donc dans cette histoire-là, et ce n'est que le début. Il va passer son temps à courir. La fuite, et il va composer des tas de psaumes. Bon, il est tout le temps en fuite. David, alors vous vous souvenez, la dernière fois, Saül l'avait fait poursuivre jusque chez le prophète Samuel. Enfin, il n'avait aucun respect pour Samuel, qui l'avait oint, qui l'avait nommé roi et qui pendant des années l'avait aidé. Qui l'avait prévenu en plus. Il lui avait dit « Dieu va lever un autre roi parce que tu as désobéi ». Aucun respect, absolument aucun respect. Saül avait envoyé des soldats, ça n'avait pas marché, donc il était allé lui-même. Et c'est là que l'Esprit de Dieu, bien sûr, l'avait arrêté et lui aussi... comme les soldats avant avaient prophétisé, étaient tombés sous l'Esprit de Dieu. Il a fallu que ce soit l'Esprit de Dieu qui les arrête. Il n'y avait plus rien pour protéger David. Rien ni personne. Donc David n'est en sécurité nulle part maintenant. Au stade de notre histoire, c'est fini. Il ne peut pas retourner chez son père parce que c'était facile de le récupérer chez son père. Il ne peut plus retourner au palais parce que Saül n'a qu'une idée, le tuer. Il ne peut pas retourner chez lui. Vous avez vu que chez lui, il avait envoyé des soldats pour l'arrêter. Et puis, chez Samuel et avec les prophètes, c'est la même chose. Il s'était dérangé même chez les prophètes. Ce qui fait quand même, c'était grave. Aucun respect pour les hommes de Dieu. À l'époque, le prophète, c'était quelqu'un quand même qui représentait Dieu. Jésus n'était pas encore venu. C'était vraiment l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et là, aucun respect. Donc, il n'est plus en sécurité nulle part. Ça ne l'empêche pas de composer des psaumes. Vous savez, on l'a lu la semaine dernière. Comment il a fait? Alors son ami Jonathan, avec Jonathan, il avait fait une alliance, un pacte, mais c'était un pacte devant Dieu. C'était pas « t'es mon copain, je t'aime bien », c'était vraiment un pacte. Et à l'époque, quand on faisait un pacte, d'ailleurs les Indiens d'Amérique respectaient ça aussi, ça veut dire « si on m'attaque, tu me défends, si on t'attaque, je te défends ». C'était un pacte de soutien, de défense, de protection de l'autre. Donc, il va se tourner vers Jonathan. Il n'a plus que ça. Et vous avez, à la fin de l'histoire, il n'aura même plus Jonathan. Alors, ce qui est un peu effrayant dans cette histoire, c'est qu'on n'a plus le David qui était devant Goliath. Vous vous souvenez, ce petit jeune homme? Bon, allez, le Seigneur est avec moi, j'en ai vu d'autres. Pas de souci, c'est quand même pas quelqu'un comme ça, un philistin qui va insulter le Dieu vivant. Non, mais attendez. Sûr de lui, calme, posé, sûr de son Seigneur surtout. Pas de souci, il avait l'air vraiment bien. Et là, on sent un David beaucoup plus angoissé. Vous avez vu dès le début, il harcèle Jonathan avec des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Il pose question sur question, il est tendu, il est angoissé. En fait, il est beaucoup moins à l'aise en face de Saül qu'en face de Goliath. C'est net, hein? Goliath, ennemi du peuple, ennemi de Dieu, étranger, rempli de haine. Seul je ne pas. Je faisais confiance à Dieu. Là, c'est Saül. Un homme de son peuple, pourtant, qui avait été choisi par Dieu en son temps. Un homme que David aimait, qu'il respectait. Le père de son meilleur ami, son beau-père. Et il était déterminé à le poursuivre pour le faire mourir. La situation était beaucoup plus compliquée qu'avec Goliath. Et le diable sait, hein. Le diable sait. Et c'est souvent au sein des gens qui nous sont les plus proches qu'on a le plus de problèmes. Les psychologues disent, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, vous marche sur le pied et vous donne un coup de coude dans les côtes, vous allez, bon, suivant votre caractère, vous allez plus ou moins réagir, mais 10 minutes après, vous avez oublié. Sauf si vous avez un corps au pied. Mais c'est fini, vous n'y pensez plus. Mais si le même comportement vient de votre fils ou de votre mari ou de votre fille, ça passe pas comme ça. Hein. C'est normal parce qu'on est impliqué. Hein. Et David était impliqué sentimentalement, spirituellement aussi. Il avait du respect pour cet homme. Donc c'était beaucoup plus difficile à vivre. Et là, je pense qu'il est à la limite de ce qu'il peut supporter. Contrairement à Goliath. Et souvent, c'est vrai que les attaques de l'extérieur nous pèsent moins que les attaques de l'intérieur. Le collègue de travail qui est avec nous tous les jours, c'est plus dur que le grand chef qui passe une fois par an. Sauf s'il y a un problème de salaire à la clé. Mais en général, c'est comme ça. Et le diable sait, il en profite bien. Donc David semble plus agité. Moi, je le sens perdu, plein de questions. Et il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'effectivement, il n'a rien fait. Et il n'a pas, visiblement, il ne comprend pas le problème de la jalousie de Saül, comme on en a parlé ce matin. Et ça me fait penser beaucoup à Jésus face aux pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens du peuple juif, c'était des gens qui cherchaient à respecter Dieu, à honorer Dieu, à faire les choses bien. Et des hommes religieux, et ils vont tout le temps chercher à tuer Jésus. Pourquoi? Eh bien, imaginez, parce qu'il guérit les malades. Non mais... En plus, il fait ça le jour du sabbat, c'est un comble. Comment on ose guérir un aveugle le jour du sabbat? Non mais, c'est pas tolérable. Jésus a retrouvé le même problème. Il a fait des choses bien, il a remporté des victoires extraordinaires sur le mal, sur la maladie. Et qu'est-ce que les pharisiens lui souhaitent? La mort. Les gens de son peuple, les hommes de Dieu de l'époque. C'est fou. Et... J'y pensais un petit peu tout à l'heure, parce que je pensais Jésus, fils de David. Je me disais, oui, d'accord, c'était quand même loin, c'était des générations après. Mais dans ce sens aussi, il est fils de David. Comme David, il va être rejeté, menacé de mort pour les bonnes actions qu'il a faites, pour les victoires qu'il remporte sur le mal. Là, on est dans un monde un peu bizarre. Hein. Et d'ailleurs, regardez bien dans l'Évangile, Jésus guérit, nanana, puis la phrase d'en dessous, ils cherchèrent à le tuer. C'est complètement incohérent, mais c'est comme ça. Il ne faut pas se faire d'illusions, le diable ne fait pas de cadeaux. Il ne l'a pas fait avec David, il ne l'a pas fait avec Jésus. Et je trouve que David, souvent, est un peu une figure qui annonce Jésus. Et en ce sens aussi, c'est le fils de David. En fait, Saül était un homme du même peuple que David, mais il avait perdu sa relation avec Dieu. Et du coup, c'est pire qu'un philistin. Un homme qui a totalement perdu sa relation avec Dieu, mais qui garde son ministère, son travail, ça fait peur. Et c'est vraiment le cas de Saül. Et combien de fois c'est arrivé aussi dans l'histoire, je réfléchissais, bien sûr on a Jésus et les pharisiens, mais si on regarde un peu les premiers chrétiens, avec l'apôtre Paul avant qu'ils se convertissent, tout son désir, hein, c'était de les mettre en prison, les tuer. Il en avait après les chrétiens, alors que c'était des gens de son peuple, qui avaient la même base religieuse que lui. Au moment de la réforme, c'est de l'intérieur que ça a été terrible. Hein, on a brûlé des chrétiens, on a noyé les baptistes, on a fait toutes sortes d'horreurs. C'était des chrétiens qui tuaient des chrétiens. On a beaucoup parlé de Wesley cet été. Eh bien, Wesley avait un de ses collègues qui a été tué au cours d'une prédication en plein air. Des chrétiens qui tuent des chrétiens. Le rejet, l'exclusion, on l'a vu pour les baptistes, pour les puritains, ceux qu'on appelait les puritains, les pentecôtistes, parce qu'ils expérimentaient des vérités bibliques toutes simples qu'on pouvait retrouver sans aucun problème dans la parole de Dieu. Et à chaque fois, c'est de l'intérieur que la persécution va être la plus violente, alors qu'il aurait suffi d'ouvrir la Bible. Satan apprécie beaucoup ce genre d'opposition, parce que c'est plus destructeur et c'est beaucoup plus douloureux. Donc, quand il y a des oppositions de ce genre qui sont proches de nous, je crois que le secret, c'est comme David, d'aller crier à Dieu pour repousser les attaques de l'ennemi, parce que c'est vraiment le travail de l'ennemi. Notre pauvre David n'a donc plus qu'un recours humain, c'est Jonathan, parce qu'il a fait cette alliance d'amitié et de protection mutuelle devant Dieu. Bon, il se trouve que c'est le fils de Saül, mais bon. Il est fidèle, il est loyal. Alors, ce qui m'a étonnée dans cette histoire, c'est qu'au début, vous l'avez remarqué, Jonathan semble très difficile à convaincre. Je me suis dit, mais enfin, quand même, il est au courant. Il sait que son père a lancé deux fois la lance sur David. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il a envoyé des soldats pour le chercher chez lui. Enfin, qu'il a envoyé des soldats chez les prophètes. Mais enfin, Jonathan, ça va pas. Alors, je me suis demandé peut-être, est-ce qu'il croit que lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur Saül, son cœur a peut-être changé? C'est son fils. C'est le fils de Saül. Il a peut-être un secret espoir que maintenant que Dieu est descendu sur lui de cette manière, ça va peut-être changer. Peut-être aussi, il s'est dit, bon, ce sont des épisodes de colère qui sont liés à sa jalousie, etc. Mais ça partira. J'imagine. Et d'ailleurs, il dit, mais s'il voulait te tuer, il m'en aurait parlé. Il ne veut pas croire que son père en est là. Et souvent, c'est normal quand on aime quelqu'un. On ne veut pas croire. Vous avez vu qu'il était difficile à convaincre, malgré toutes les preuves. Il est en fait tiraillé, et ça va être le drame de Jonathan. Moi, il me fait mal au cœur, Jonathan. C'était un homme de Dieu, d'une grande loyauté, qui n'avait pas peur de perdre sa vie pour dire la vérité. Vous vous souvenez dans les histoires précédentes. Tiraillé entre son amour pour son respect pour son père et l'amitié, le pacte d'alliance avec David devant Dieu. Il a un amour pour Dieu, un respect de Dieu extraordinaire, un amour pour la vérité. C'est un homme extraordinaire, Jonathan. J'allais dire, c'est dommage, soit le fils de Saül. Et d'un côté, ça va être son problème, d'ailleurs, jusqu'au bout de sa vie, son cœur est totalement pour David. Il sait. On le voit dans d'autres passages, hein, dans le suivant. Il sait que David va être roi. Ça veut dire que lui, prince, c'est fini. Il ne régnera pas. Et il accepte ça. Pas courant, ça. Hein. Il sait que David a été choisi par Dieu. Mais il veut garder son respect pour son père. Il va même aller, là j'avance un tout petit peu, suivre son père jusqu'au bout. Et il mourra avec son père. Alors qu'il aurait pu être le bras droit de David jusqu'au bout. Il le dit d'ailleurs dans le texte qu'on verra dans deux chapitres. Il n'a pas voulu choisir entre le royaume de son père et le royaume de Dieu. Il a soutenu le royaume de Dieu. Il a soutenu la royauté de David. Il a soutenu David à 100%, mais il n'a jamais voulu quitter son père. Et il a subi le même sort que son père. Il a tout fait pour David jusqu'au bout. On le verra dans le prochain texte aussi. Mais il ne va pas le suivre. Physiquement, son cœur est avec lui. Waouh, c'est un peu dommage. Hein. Je pense qu'il avait un avenir, Jonathan, un avenir extraordinaire, mais c'était trop dur. Et c'était un homme extrêmement loyal. Sa loyauté humaine a malheureusement lui a coûté la vie, on va dire. Mais son cœur était vraiment avec David et avec le Seigneur jusqu'au bout. Donc c'est ça qui fait mal chez Jonathan. C'est que quelque part, son cœur était avec David jusqu'au bout. Il était dans l'obéissance à Dieu, dans le soutien des plans de Dieu, mais il s'est astreint à respecter son père et à rester loyal. Sa culture, peut-être, sa culture familiale, c'est vraiment dommage. Enfin, on en reparlera une autre fois. En soutenant David, Jonathan, comme j'ai dit tout à l'heure, va laisser sa place de roi à David. Il sait qu'il est choisi par Dieu et il a une grande crainte de Dieu, Jonathan. Alors là déjà, il est capable, dans ce domaine-là, d'aller complètement à l'encontre de sa culture. Enfin, la culture, à l'époque, si tu es prince, tu vas être roi, et tous les gens qui viennent se mettre en travers, on les tuait. C'était la culture et c'était normal. Bon, maintenant on les tue avec la presse. C'est différent. Mais ça marche aussi pas mal. Mais le problème, c'était la culture, et lui va se dresser contre cette culture. D'ailleurs, son père ne va pas manquer de lui dire, hein, il n'y aura de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Il aurait dû s'opposer à David, selon sa culture, mais il a choisi d'obéir à Dieu. Ce n'est pas seulement son amitié, hein, pour David qui compte là, c'est l'obéissance à Dieu. On a vu que Jonathan, depuis le début, tout ce qui comptait pour lui, être vrai, faire ce que Dieu demande. Jonathan, si David me fait souvent penser à Jésus, bien sûr, c'est connu, mais Jonathan, lui, me fait penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va préparer le chemin de Jésus, vous vous souvenez? Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Alors attention, Jean-Baptiste était devenu un prophète célèbre. Tout le pays le connaissait, même les pharisiens allaient le voir, et c'est pas peu dire. Les gens venaient se faire baptiser. C'était le prophète célèbre. Voilà, enfin, après 6 siècles de silence, Dieu se manifestait, il envoyait Jean-Baptiste. Et puis, Jésus arrive. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et pour lui, le royaume de Dieu passait avant tout. Avant son intérêt de prophète célèbre, il va s'humilier, il va tout doucement disparaître. On le voit dans les évangiles, on en parle de moins en moins. Puis après, lui aussi est tué par le roi, lui aussi. Il est dans l'humilité, Jean-Baptiste. Il sait qu'il est bien peu de choses face à Jésus et il va complètement disparaître devant Jésus. Et on va avoir le même problème avec Jonathan. Il va tout faire pour protéger David, pour que David puisse établir son royaume le moment voulu. Et puis, il va s'effacer. Et pourquoi il est capable de faire ça? Ça va à l'encontre de sa culture familiale, ça va à l'encontre de sa culture nationale, et la culture même de toute la Mésopotamie de l'époque. Hein, c'était inadmissible ce qu'il a fait, parce qu'il avait le souci du royaume de Dieu. Et dans notre vie, souvent, Dieu nous demande de faire des choix comme ça, et ce n'est pas facile. Aller à l'encontre de la culture familiale, de notre culture nationale, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est ça qui nous rend libres. La vérité nous rend libres. Malheureusement, nos cultures, elles ont des bonnes choses. Merci pour toutes les bonnes choses de nos cultures. Même la culture française a quelques bonnes choses. Mais ça ne suffit pas. C'est quand même très limité. Tandis que la culture du royaume de Dieu, c'est la vérité. Et ça vaut la peine de laisser tomber tous les rudiments de notre culture qui ne sont pas très bons, hein, pour adopter ceux de la culture du royaume de Dieu. Par exemple, quand Jésus dit « ne jugez pas », alors nous, en tant que Français, c'est à la limite de l'impossible. Et pourtant, c'est ça qui permet des bonnes relations. C'est ça qui va permettre de s'aimer les uns les autres. C'est ça qui va mettre les gens en confiance, qui va permettre aux enfants de grandir et de prospérer sans être tout le temps jugés sur ce qu'ils font de pas bien. Voilà. C'est pourtant ça la vérité qui va permettre de vivre. Jésus est la vie, hein. Chemin, la vérité, la vie. Notre culture, malheureusement, elle a fait beaucoup de dégâts dans ce domaine. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos cultures juste pour le plaisir, pour faire de nous des ascètes ou des moines, des choses. Non, non. Il demande parce que la culture du royaume de Dieu, c'est la vie. C'est la vie, c'est vraiment ce bonheur qui nous attend quand on obéit au Seigneur. Finalement, Jonathan est convaincu, et ou tout au moins, il dit « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Écoute, voilà. David a un plan, vous avez vu son plan, il est tout simple. Et il est déjà très stratège, hein. Il n'est pas encore roi, mais ça tourne là-dedans. Hein. Il a un plan pour être fixé sur les intentions de Saül sans trop de risques. Alors ce qui me plaît dans son plan, c'est qu'il laisse la porte ouverte à une action possible de Dieu. Enfin, quand même, l'autre lui a voulu le tuer 6 fois. Déjà, il y en aura d'autres après. Il laisse quand même la porte ouverte à une action de Dieu. Si jamais il ne dit rien, s'il ne se fâche pas, alors je pourrais revenir. Quand même, il faut le faire, hein ? Eh bien, il laissait toujours la porte ouverte. Et je pense que c'est important. Il ne faut pas prendre de décision aussi importante. Là, c'était quitter la cour, s'enfuir, devenir un... Comment on appelle ça, hein ? C'est un paria, merci. Ah, heureusement que les jeunes sont là. Accepter ça, ce n'était pas évident. Mais il laisse la porte ouverte à l'action de Dieu. Et donc, avant de prendre des grandes décisions, pensons toujours que Dieu peut changer les choses au dernier moment. Donc, assurons-nous bien. Prenons notre temps. Mais prenons pas des décisions sur un coup d'émotion. C'est ça que David a été très raisonnable là. Il n'a pas dit, bon ça va, hein, il a essayé de me tuer 6 fois, ça suffit. Il m'a poursuivi jusque chez les prophètes, c'est fini, on tire un trait dessus. Il va faire un dernier essai dans la prière, avec l'aide de Jonathan, pour être sûr qu'il ne prend pas une mauvaise décision. Parce qu'il ne comprend pas dans sa petite tête non plus. Il se dit, maintenant, j'ai reçu l'onction pour être roi, et maintenant le roi existant, au lieu de me laisser gentiment sa place, comme Jonathan, eh bien, il veut me tuer. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dieu veut ou il ne veut pas ? Il veut que je sois roi ou il veut qu'on me tue ? Enfin, ce n'est pas clair, hein ? Mettez-vous à sa place. Donc, il ne va pas rester sur ses émotions, il va prendre le temps de vérifier que c'est sûr et certain, il doit s'en aller. Ça, j'ai apprécié parce que ce n'était pas évident. Je pense que pour moi, j'aurais eu assez de preuves. Hein. Un m'aurait suffi, d'ailleurs. Donc, attention à nos décisions rapides. Malheureusement, vous avez vu que Saül, au bout d'un moment, va se fâcher. Et la décision va devoir être prise rapidement. Alors, la décision de Jonathan, c'est de rester fidèle à l'alliance, c'est de promettre d'informer David, et puis d'expliquer à David comment il faut faire pour ne pas avoir d'ennui. Parce que je pense que Jonathan devait être espionné lui aussi. Et sinon, il n'aurait pas pris un petit jeune serviteur avec lui, etc. Donc Jonathan est dans la prudence. Ce n'est pas parce qu'on se confie en Dieu qu'il ne faut pas être prudent. Mais il promet d'informer David. Alors c'est difficile et c'est délicat pour Jonathan. Parce qu'il est à la fois loyal et fidèle, même si ça doit lui en coûter. Loyal et fidèle à son père, et loyal et fidèle envers David. Donc ça va devenir un petit peu contradictoire. Si Saül est en colère, je te laisserai partir, que tu t'en ailles en paix, que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Tiens. Vous voyez, c'est là aussi qu'on voit qu'il était conscient qu'il allait être roi, David. Comme il a été, il n'est plus, mais il a été avec mon père. Jonathan est parfaitement conscient. Alors en disant tout ça, Jonathan va complètement à l'encontre de son amitié pour David. La séparation est inévitable. Enfin, ce gars avec qui ils travaillaient, ils allaient combattre ensemble, il va devoir s'en séparer alors qu'ils ont fait un pacte d'amitié. Et je réfléchis, je dis, mais ce pauvre Jonathan, il renonce à tout, quoi. Et là, il renonce à lui-même. Ça me dit quelque chose, renoncer à lui-même ? Je crois qu'on trouve ça quelque part dans la Bible. Hein. Il va renoncer à lui-même. Cette amitié extraordinaire, cette fidélité, cette loyauté, il est prêt à l'abandonner. Je te laisserai partir. Et parfois, pour le Seigneur, on est obligé de laisser partir. Des choses, des gens, des postes, enfin voilà. Je te laisserai partir. Il renonce à lui-même. Ensuite, il renonce à sa tradition familiale. Parce qu'il va laisser en paix l'ennemi de son père. Ça ne se fait pas. Le prince doit tuer les ennemis du royaume et les ennemis du roi. Ça, c'est clair. Donc, il va renoncer à lui-même, son bien-être. Il renonce à sa tradition familiale. Et il va renoncer à la tradition politique. Parce qu'il sait que David va prendre sa place. Et il l'accepte. Il est complètement à contre-courant, Jonathan. Complètement, partout. Même renoncer à cette amitié extraordinaire, le laisser partir, il est prêt à tout parce qu'il est soucieux du royaume de Dieu. Il a compris, profondément compris, que c'était Dieu qui gérait cette situation. C'est incroyable, hein ? On n'en parle pas souvent de Jonathan, mais moi je trouve que c'est un homme extraordinaire. L'alliance devant Dieu est beaucoup plus forte que les traditions. Il a fait une alliance de protection avec David et il va la respecter jusqu'au bout. Ça va être plus fort que les traditions personnelles, humaines, familiales et culturelles. Et je pense que Dieu, parfois, à cause de notre engagement avec lui, entre autres dans le baptême, va nous demander aussi de laisser de côté certaines choses et de faire passer sa parole et l'obéissance à sa parole avant notre intérêt personnel, avant nos habitudes familiales ou culturelles. Or, je cherchais des exemples, mais bon, vous allez en trouver vous-même. Hein. Parfois, moi j'ai connu des familles où la coutume était, quand quelqu'un nous a fait un sale coup, on ne pardonne pas. Vous avez tous, enfin, je pense, à l'école, vous avez lu Colomba. Si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment. Mérimée, c'est l'histoire d'un non-pardon qui s'étend sur plusieurs générations. Et d'ailleurs, il y a des familles, et ça, ça existe encore aujourd'hui, où on ne sait toujours pas pourquoi on est fâché avec l'arrière-grand-père et avec le grand-oncle, etc. On sait qu'il y a eu quelque chose qui ne se pardonne pas. Et quelquefois, ce n'est pas grand-chose, mais bon. Et ça reste sur des générations et des générations. Bon, c'est l'histoire de Colomba, mais voilà, les écrivains en ont bien profité, parce que c'est un beau sujet de roman. Des traditions familiales. Et si quelqu'un s'aventure à être ami avec l'autre camp, c'est la mort. Donc, il y a des... Oui, en Corse, c'est... J'espère qu'il n'y a pas de Corse ici. Alors, aller à l'encontre comme ça des traditions familiales, c'est pas évident. Garder des coutumes. Par exemple, je me souviens de quelqu'un, quand il s'est converti avant de prendre le baptême, on parlait un peu des blagues. Et les Français, ils aiment bien les blagues. Les Canadiens, parfois, ils disent « Oh, les Français, ils racontent des bébelles. » Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'humour français. C'est des menteux, oui. C'est des menteux, ils racontent des bébelles. Parce que, ben voilà, les Français ont l'habitude de raconter des blagues. Et ils me disaient « Mais bon, il y a des blagues quand même, quand on est chrétien. » Ben, je dis « Oui, il faut arrêter, quoi. » Ben oui, mais on est tellement habitué au travail, etc. Ben oui, mais on arrête. Quand on est chrétien, on ne raconte pas n'importe quelle blague. Il faut savoir rire, beaucoup rire et bien rire, mais pas de n'importe quoi. Et je me souviens, ce chrétien était tout pensif. Mais comment je vais faire? Ça prend quelquefois du temps pour que les collègues comprennent qu'il y a une certaine catégorie de blagues qui n'entrent pas dans la bouche d'un chrétien. Mais c'est des traditions. En France, on raconte des blagues. C'est bien. Alors bon, vous pouvez acheter des bouquins de bonnes blagues qui peuvent aller dans la bouche d'un chrétien. Et je crois que c'est très bon de rire, mais pas de n'importe quoi. Donc voilà, c'est des traditions. Et quelquefois, en tant que chrétien, on est obligé d'aller à l'encontre jusqu'à ce que les gens comprennent qu'on sait rire et bien rire. Mais on fait des choix. Bon, je cite ça, mais il y a des tas d'autres exemples où on est appelé à aller à l'encontre de notre culture, à l'encontre de nos habitudes familiales, etc. Et puis, bah, renoncer à soi-même. Hein, j'ai repris les textes pour ceux qui veulent les noter. Matthieu 16, 24, Marc 8, 34, Luc 9, 23. Renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la pire chose que Dieu nous demande, renoncer à soi-même. Alors, Jonathan va maintenant demander à David de faire quelque chose de précieux. C'est de protéger sa famille. Alors là, ça ne se fait pas non plus, ça. Là, ça ne se fait pas. David, une fois roi, est supposé tuer tous les gens qui étaient fidèles au roi précédent. Quand c'est deux dynasties différentes, évidemment. Hein, pas quand c'est de père en fils, mais quand c'est deux dynasties différentes. La coutume du Moyen-Orient était de tuer... Ou alors, il fallait qu'ils s'enfuient suffisamment loin pour pas qu'on les embête. Mais la coutume, c'était de les tuer. Et il va demander à David d'aller à l'encontre de la coutume. Dire, on a fait alliance, mais je te demanderai une chose. Préserve la vie de ma maison. Donc, ses descendants, sa famille. Alors, suivant les textes, c'est la famille, la maison, etc. Et souvent, les gens disent, David a épargné la vie de Saül. On va le voir, là, dans tous les textes qui suivent. Parce qu'il avait été une fois oint par Dieu, oui, mais c'est aussi parce qu'il avait promis à Jonathan de ne pas toucher à sa famille. Ça explique pourquoi même quand il tenait le manteau de Saül pour le déchirer, qu'il a coupé un manteau pour lui montrer, etc. Il avait promis et il a été fidèle à une promesse qui ne se faisait pas dans ce pays. Vous savez, parfois on dit, oh, la Bible, c'est le fruit d'une culture, la culture du Moyen-Orient d'il y a 2000 ans. Mais je rêve. Elle va complètement à l'encontre de la culture, de la nôtre, de celle du temps de Jésus, de celle du temps de David, de celle du temps d'Abraham. Elle va à l'encontre. Parce que demander à David de garder la famille, de la protéger, et David va aller plus loin. Il dit, non seulement je te promets, mais qu'est-ce qu'il a fait avec Méphibosheth ? On le verra plus tard. Il l'a fait manger à sa table tous les jours, il lui a rendu tous les biens, toutes les terres de Saül. Il a fait l'infaisable. Non, la Bible va à l'encontre. Elle va à l'encontre des cultures. Elle prend dans les cultures, elle accepte dans les cultures ce qui est bon, mais elle rejette ce qui est mauvais. Et elle n'est pas dans la vengeance, mais elle est dans l'amour. David a eu le courage de récupérer Méphibosheth et de lui redonner toutes ses terres. Ah ! Après, on va vous dire que la Bible est un fruit de l'imagination des hommes. J'aimerais bien voir ça. Et vous savez, le meilleur exemple, quand quelqu'un vous dit ça, c'est l'épître à Philémon. En pleine période où l'esclavage est la norme, où l'esclave n'a aucun droit, où un esclave qui fuit, on a le droit de le tuer, même s'il ne fuit pas, d'ailleurs, si on en a marre, on peut le tuer. Et on n'a aucun problème. En pleine période comme ça, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul ? Pour un esclave qui s'est enfui, traite-le comme un frère. Non, mais je rêve. Non, la Bible, elle va à l'encontre de nos traditions. Elle va à l'encontre de nos façons de voir, de notre culture. Et donc nous aussi, chrétiens, on est appelés à ne pas rester esclaves de notre culture, qu'elle soit française, qu'elle soit autre, peu importe. Il y a des bonnes choses, gardons les bonnes, mais les mauvaises, ne soyons pas esclaves de notre culture. Ça, c'est le message puissant, je trouve, dans ce texte, c'est que des deux côtés, aussi bien Jonathan que David, ne vont pas être esclaves de leur culture. Donc ils vont renouveler cette alliance. Jonathan sait donc que les promesses faites à David viennent de Dieu, il y croit, alors là il est fou lui Jonathan, il y croit alors que David est au fond du gouffre. Alors c'est facile de croire que Dieu vous a fait des promesses quand vous êtes tout en haut, tout va bien en haut de la montagne, mais croire que Dieu t'a fait des promesses, si moi je te vois au fond du trou, je vais devoir faire un gros effort. David fuit, il n'a plus personne pour le soutenir, il n'a plus que Jonathan. Et Jonathan, il a dit, Dieu va punir tous tes ennemis, tu vas être roi, en quelque sorte, tu vas être roi, et quand tu seras roi, surtout prends soin de ma famille. Vous voyez la foi de Jonathan, le regard qui va bien plus loin que la réalité. Parce que là, il était loin d'avoir la couronne sur la tête, hein, David. Il sait aussi que Dieu va se charger des ennemis de David. Et ça, c'est vrai, Dieu va s'en charger. Vous avez vu ce qui est écrit dans Deutéronome 32-35, c'est un verset très important pour nous. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La vengeance, la rétribution nous est interdite. Laissons ça au Seigneur. Je vous avouerai qu'il est souvent plus sévère que nous. Laissons la vengeance et la rétribution au Seigneur. Ne lui demandons pas de l'exercer, il exercera bien tout seul. Il s'en occupera. Et quelquefois, la plus belle vengeance que Dieu peut faire, c'est d'amener nos ennemis à le connaître. Là, on aime. Donc, il connaît aussi la fidélité de David à son alliance pour préserver sa vie. Il a confiance, tu préserveras la vie de ma famille. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il a été aussi fidèle à ne pas toucher Saül ? Donc, une fois leur alliance devant Dieu renouvelée, Jonathan et David mettent au point toute leur stratégie. Vous avez vu la stratégie, c'était simple. C'était, ils ne seraient pas là au repas. Naturellement, Saül allait poser la question. Alors, vous êtes peut-être demandé pourquoi il faisait une fête à la nouvelle lune. Hein ? C'était dans la Bible, imaginez. C'est dans les fêtes. Le calendrier était lunaire. Donc, on confiait à Dieu le mois qui venait. En gros, c'est ça. Je fais un résumé un petit peu rapide, mais c'était ça. Donc, ça n'avait rien de bizarre. Le calendrier étant lunaire, chaque début de mois, on consacrait. Alors, je crois que le septième mois, c'était une fête encore plus grande. Où on vraiment remettait l'année à Dieu. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, suivant la réaction de Saül au repas, quand il voit que la place de David est vide, puisqu'il était à la cour, faut pas oublier, il était assis tout près du roi. C'était quand même le vainqueur de Goliath. Hein. Donc, en fonction de la réponse, ils vont réagir et David lui dit, mais comment est-ce que tu vas faire pour me transmettre la nouvelle? Vous voyez à quel point ils en étaient rendus, ils pouvaient même pas se voir librement. Il fallait trouver un truc pour communiquer. Il dit, mais comment tu vas faire? Tu vas pas pouvoir, hey, oh David, où tu es? Donc, bon, ils ont un truc tout simple, ils se cachent à la campagne, ils se cachent près d'un énorme rocher, et puis il a dit, je vais emmener un serviteur avec moi. Vous savez, ils avaient ces petits jeunes garçons qui faisaient un petit peu, qui portaient les armes, etc. Et il dit, ben voilà, je vais lancer les flèches, et si je lui dis la flèche est tout près, reviens plus par là, ça veut dire que tu peux revenir, c'était simple. Et si je lui dis la flèche est très loin, mais cours devant et va la chercher, ça veut dire qu'il faut s'en aller. Donc, le stratagème est en place. Évidemment, quand Saül voit que David est absent au repas de fête, le premier jour, il dit rien. Je suis sûre que Jonathan devait être plein d'espoir. Ouh, ça va s'arranger. Lui, il ne bouge pas, il ne dit rien non plus. Hein. Parce que Saül avait simplement dit, peut-être il est impur. Alors, vous savez, à l'époque, pour participer à un repas de fête comme ça, il ne fallait pas avoir touché un mort. Si jamais on avait touché un mort, on était impur, voilà. Je pense que ça faisait partie des règles d'hygiène, etc. Mais on était impur jusqu'au soir seulement. Après, il fallait se laver. Le lendemain, il n'y avait pas de souci. Et donc, un soldat comme David, il aurait très bien pu rencontrer un Philistin au coin du bois. Et puis, voilà, il ne collectionnait pas les casques comme Astérix, mais je pense que s'il rencontrait un Philistin, ça devait mal se passer. Donc, il a dû se dire, bon, voilà, c'est un soldat, hein. Il est probablement impur. Mais le deuxième jour, il va questionner Jonathan. Et là, c'est la terreur. Jonathan, qui ne voulait pas croire que Saül avait vraiment résolu de tuer David, là, il est convaincu. Il est tellement convaincu qu'il est obligé de sortir. Et la Bible dit qu'il était en colère. Donc, c'était une sainte colère. C'était à la fois la tristesse et la colère. Vous voyez les arguments que va utiliser Saül. Vous allez voir. Si vous regardez bien les arguments, je n'ai pas vu au premier coup, j'ai vu au deuxième. C'est les parents, hein. Tu es de son côté, tu rejettes tes parents. Le deuxième, tu es en danger, personnellement. Tu vois, un jour ou l'autre, ça va mal se passer pour toi. Ta royauté est en danger. Il remue le couteau dans la plaie, mais apparemment, ça ne marche pas avec Jonathan. Et puis enfin, il mérite la mort. Bon, dans tous les arguments, bah, c'est les arguments de la chair, c'est les arguments humains, il n'y a aucun argument qui fait allusion à Dieu. Ça, c'est Saül. Saül en est arrivé au point où il n'est même pas capable de dire « Dieu m'a oint, donc il n'y a rien à craindre » ou des choses comme ça. Mais il sait que Dieu lui a retiré sa faveur. Donc, il n'a plus que des arguments totalement humains. Il n'y a aucune mention de Dieu, du choix de Dieu, des prophéties de Samuel, des causes spirituelles de son état. Dieu n'entre absolument pas dans le schéma familial, culturel et politique de Saül. Dieu est complètement absent. Complètement. Il s'agit simplement de ses pensées, de sa jalousie, de sa peur, etc. Alors, le troisième jour, Jonathan donc, va partir avec un jeune serviteur et tirer ses flèches. Alors, juste avant de terminer, un petit coup d'œil sur ce jeune serviteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit verset qui m'amuse. Il dit « Il ne savait pas ce qu'il faisait ». Est-ce que ça ne vous est pas arrivé parfois d'être dans une situation où vous dites à Dieu « Mais pourquoi je suis là? Pourquoi et à quoi je sers? Ou qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Ça nous arrive dans la vie, hein? Si, mais franchement, à quoi ça sert? Alors, parfois, on trouve la réponse quelques temps après. Parfois, on n'en a pas, on le saura là-haut. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que parfois, Dieu nous fait faire des choses ou passer par des moments un peu spéciaux. Où on se dit effectivement à quoi ça sert. Mais il ne faut pas s'inquiéter, si on est dans la volonté de Dieu, on sert à quelque chose. Et ces moments où on ne comprend pas, comme ce petit jeune homme, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est allé ramasser ses flèches sans se rendre compte qu'il était en train de servir le futur plus grand roi d'Israël. Pauvre gamin, il n'avait aucune notion, et peut-être il ne l'a jamais su, il le sait peut-être maintenant qu'il est au ciel, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était entré au service du plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il lui a sauvé la vie. Il n'a jamais su. Et j'aime bien ce petit verset qui dit « Il ne savait pas, c'est exactement, hein, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ben, j'aimerais bien que ça nous arrive plus souvent, de ne pas savoir ce qu'on fait, et en fait d'être vraiment au service du Seigneur dans différentes situations de notre vie. Prions pour ça, et prions aussi pour que on soit vraiment au service du royaume de Dieu. Là où c'est le plus douloureux, même si ça doit aller à l'encontre de nos traditions familiales, culturelles, etc., etc. Soyons au service du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est la vie, c'est la vérité. Vous savez, c'est comme je dis toujours à mes élèves, le code de la route, c'est pas fait pour nous ennuyer. Je sais que quand on est pressé et qu'on est à un feu rouge, on a vraiment l'impression que c'est fait pour nous ennuyer. Mais si on enlevait le code de la route, ce serait le chaos. Vous savez, il y a des grandes villes où il y a eu des pannes de feu tricolores. Ça a été le chaos épouvantable. Et le royaume de Dieu, c'est une vilaine comparaison, mais c'est lui qui nous permet de vivre. C'est lui qui nous permet d'avoir cette liberté, cette joie profonde, la vérité dans les relations, dans la vie, etc. Ça vaut le coup d'être fidèle au royaume de Dieu, même s'il faut renoncer à soi-même. C'est le travail de toute notre vie. On n'y arrivera pas du jour au lendemain. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, se dire au fond du cœur, oui, je veux bien renoncer à moi-même. Je veux bien renoncer à toutes ces choses. C'est l'apôtre Paul qui disait, toutes ces choses, je les considère comme de la boue. Et c'était quoi ces choses? C'était toute sa culture intellectuelle. C'était toute sa culture familiale. C'était toute sa culture religieuse. Toutes ses connaissances. C'était un cerveau, hein, l'apôtre Paul. Et il dit, tout ça, je considère ça comme de la boue à cause de Christ. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais je pense que le Seigneur peut nous y aider. Amen.